Je vous invite à partager plusieurs textes aujourd'hui de l'Écriture, évidemment. D'abord dans la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de celle de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Un deuxième passage de la Genèse, au chapitre 29, les versets 1 à 6. Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne, et tout à côté, trois troupeaux de petits bétail étaient campés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Or, la pierre qui bouchait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblèrent là, on roulait la pierre de l'ouverture du puits, on abreuvait le petit bétail et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? » Ils répondirent, « Oui, nous le connaissons. » Et il leur dit, « Comment va-t-il ? » Ils répondirent, « Bien. Voici sa fille Rachel qui arrive. » Avec le petit bétail. Nous continuons notre parcours biblique par un passage du livre d'Esdras. Je ne sais pas si c'est un livre que vous lisez tous les soirs. On ne l'aime pas trop, surtout dans le monde libéral, parce que c'est un livre qui est très axé sur la loi. Et c'est un livre assez intégriste. Alors, il n'a pas tout à fait les faveurs du foyer de l'âme, mais il est quand même dans l'Écriture. Alors je vous lis les premières lignes de ce livre d'Esdras, vous les poursuivrez chez vous pendant la semaine. J'en suis persuadé. La première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tous les endroits où vous séjournez, tous ceux qui y restent, les gens de l'endroit, se muniront d'argent et d'or, de biens et de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une aide sous forme d'objets d'argent, d'or, de biens, de bétail, de largesses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nabucadnetsar avait fait sortir de Jérusalem et placer dans la maison de son Dieu. Cyrus, le roi de Perse, les fit sortir par Mithridac, le trésorier qui en fit le compte pour Tchétchestar, le prince de Juda. En voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux et 30 coupes d'or, 410 coupes doubles d'argent, 1000 autres objets. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Et Shechtebar fit monter le tout au pays en même temps que montaient les déportés de Babylone à Jérusalem. Et la suite, évidemment, ça va être la construction du temple. Et quelques siècles plus tard, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Donc le roi Hérode, les mages partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 15 et suivants, « Lorsque les anges se furent éloignés d'eux, des bergers, vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, le nouveau-né, dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les mages. Marie conservait toutes ces choses, les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. Je vous invite à prendre, avant de revenir sur ces textes, le cantique 251. Père, donne-nous toujours la force de te louer, sans cesse et sans cesse, à l'instar de ces bergers ou de ces mages qui étaient là sur leur route en chantant ta puissance, ta présence et ton amour. Merci Père pour ces textes qui ont été lus et pour ce chant qui nous permet de dire combien tu nous aimes et combien nous avons besoin de toi et combien nous te louons. Amen. Voilà quelques mots sur les textes que nous avons lus, qui sont des textes de voyage, évidemment, sur le récit des mages, puisque c'est aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. Ces récits de voyage et de mouvement sont très nombreux. J'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, hein. Bon, je me suis limité à 4 ou 5, pas plus. Mais la Bible est plein de ces récits de gens qui sont en route, qui vont les uns vers les autres ou qui s'éloignent un petit peu et qui reviennent, etc. L'Écriture laisse quand même, sous cet aspect, une impression de mouvement, de route parcourue, qui est quand même une impression assez forte, finalement, et ceci pour des tas de raisons. Si vous regardez les textes qui ont été lus, vous avez Jacob qui va rechercher une nouvelle épouse, Abraham qui quitte son pays pour aller en Canaan, la terre promise pour l'exil, pour l'exode, le retour à la terre promise après l'exil. Histoire qui a été lue avec Esdras. À Jésus-Christ, il a la bougeotte, ce que vous savez, il tient jamais en place, il est tout le temps en mouvement, et Paul aussi. Les successeurs sont tout le temps en train d'aller à droite, à gauche, et vous savez que Paul avait projet d'aller en voyage jusqu'en Espagne. Bon, il était arrêté à Rome, mais s'il avait pu continuer, il serait allé jusqu'au bout du monde, entre guillemets, connu pour lui, ça va de soi. Mais nous savons aussi par la tradition ecclésiale que les autres apôtres sont allés dans d'autres directions, soit vers l'Arménie, soit vers l'Inde, l'Arabie, etc. Il y a des récits là-dessus dans les textes apocryphes qui racontent tout cela. Ça bouge, et ça bouge tout le temps. Je crois que c'est important de le signaler, ce que ce n'est pas neutre, finalement, parce que dans un livre aussi, je dirais, aussi lourd de sens que la Bible, avec autant de mouvements, de voyages, eh bien, essaie de nous faire parvenir un message à travers ces voyages, très certainement. Les bergers et les mages. Ces textes que nous lisons à Noël et au moment de l'Épiphanie, enfin, dans toute cette période de fête, que nous lisons aussi avec les enfants, ces textes que nous connaissons depuis que nous sommes petits, eh bien, ils sont importants finalement parce qu'ils nous disent que ces gens, bergers et mages, ils repartent du lieu où ils sont allés après une rencontre qui est pleine de promesses et qui va les transformer finalement. Les bergers, ils repartent, ils arrivent avec quelques questions, ils savent pas trop, et ils repartent là, hein, ils racontent ce qui s'est passé. Ils repartent dans l'émerveillement. Quant aux mages, c'est un petit peu la même chose. Ils arrivent... guidés par une étoile, donc ils sont mages, on peut penser que l'étoile ça les intéresse et qu'ils font confiance à ce message, mais ils ne savent pas vraiment qui ils vont voir. Je ne sais pas si les présents qui vont être offerts au nouveau-né Jésus sont vraiment les présents qu'il aurait fallu, je ne suis pas très sûr. Je veux dire, peut-être que Marie et Joseph auraient attendu autre chose que de l'or, de la myrrhe, hein, que sais-je encore, peut-être des choses plus pratique. Je pense que les mères de famille qui sont dans cette assemblée doivent comprendre assez facilement cela. Ils y sont allés et ils reviennent, ils repartent par un autre chemin. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'ils ne vont pas, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils auraient pu repasser voir Hérode, dire écoute, on s'est trompé, ça s'est passé dans une étable, ça n'avait aucun intérêt, l'affaire eût été classée. Non, ils repartent par un autre chemin parce que le monde n'est pas le même entre le moment où ils sont allés et le moment où ils reviennent chez eux. Pour eux, le regard qu'ils vont poser n'a plus rien à voir. Peut-être que les paysages sont les mêmes, mais sans doute ne voient-ils pas la même chose à l'aller et au retour. Je vous disais tout à l'heure, le regard que nous portons sur le monde, quand il est marqué par la grâce, nous permet de voir des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention, finalement, si nous ne sommes pas dans la grâce. Et d'où l'intérêt, par exemple, de la remarque que je vous faisais à propos d'une tasse de café partagée, qui me semble quelque chose d'important lorsqu'on s'accueille les uns les autres. Vous voyez, pourtant, c'est si peu de choses. Abraham, vous savez que c'est l'homme de la foi. C'est que Kierkegaard, le philosophe du 19e siècle, père de l'existentialisme, a écrit des pages admirables sur Abraham, sur ses questionnements, sur ses cheminements. Finalement, il va découvrir un nouveau pays, part vers l'inconnu. Et quel inconnu? Parce que aller de l'Irak actuel en Palestine, ça fait quand même un trajet qui est assez long à travers des pays désertiques et difficiles. Que penser de l'Exode aussi? L'Exode, là aussi, on est un petit peu surpris de voir l'errance de ce peuple à la sortie de l'Égypte, qui est là, dans le Sinaï, avant de pouvoir entrer en Canaan. Mais pourtant, c'est de cet exode que va sortir le peuple. L'exode, c'est bien l'acte de naissance du peuple d'Israël, finalement. Là, c'est pareil, à peu près la même chose pour le retour de l'exil à Babylone, à travers ces pages que nous avons lues d'Esdras, qui racontent ce retour, finalement, où Dieu va rétablir le peuple qui est allé en Babylonie, qui va revenir finalement. Biki en Babylonie va laisser des communautés juives importantes aussi. Vous savez que ce sera à Babylone qu'il y aura une des plus grosses communautés juives en dehors de Palestine avec Alexandrie. Et il y aura aussi un christianisme qui va se développer dans tout ce pays de l'Irak actuel. Oui, Dieu, le mouvement, il est là. Il est là et Jésus qui prêche en parole et en acte sur les routes de Palestine sans cesse, qui rencontre les gens comme s'il avait envie de provoquer véritablement ces rencontres, comme s'il n'attendait pas que les gens viennent, mais qu'il aille au-devant véritablement des gens pour les chercher, les accueillir d'une certaine manière, répondre à leurs questions ou à leurs interrogations. Paul, il va continuer ainsi en annonçant non pas la bonne nouvelle d'un royaume, et de l'amour de Dieu, mais en annonçant la grâce et l'amour uniquement. Dire comme nous en avons le témoignage à travers le livre des Actes des Apôtres et à travers ses lettres. Le voyage, c'est important. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui où les voyages sont si faciles, d'une certaine manière, pour des gens de pays riches comme c'est notre cas, finalement. On va au bout du monde assez facilement. Comme je dis en plaisantant, vous savez, j'ai souvent dit, hein, New York est plus proche de Paris qu'Aurillac. Et, hein, si vous prenez le train pour aller à Aurillac en changeant à Clermont-Ferrand et en prenant le tortillard entre Clermont-Ferrand et Aurillac, vous mettrez autant de temps que pour aller à New York en avion. Si vous voulez de l'exotisme, c'est à Aurillac qu'il faut aller, c'est pas en Amérique. C'est clair. Là, vous verrez les vaches en stabulation libre et des gens qui parlent encore le patois. C'est comme ça, C'est le monde moderne qui est ainsi fait, ça fait partie de notre richesse aussi. Les voyages, c'est important. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que quand on peut voyager dans de bonnes conditions, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Parce que les voyages, c'est toujours un enrichissement. Ça permet de la rencontre avec les autres, de voir comment les gens vivent, ce qu'ils peuvent apporter. Ça permet aussi la tolérance aussi. Parce que quand on rencontre les autres, qu'on les comprend, qu'on les voit vivre dans leur milieu, dans la cohérence de leur culture, on peut comprendre un tas de choses dans leur réaction, finalement.
Voyage, c'est aussi
l'apprentissage d'une certaine faiblesse, parce qu'il faut être accueilli. Quand on arrive dans un endroit complètement inconnu, on est content d'être accueilli. Mais c'est aussi savoir accueillir, évidemment. Les voyages sont quelque chose d'important. On dit qu'ils forment la jeunesse, vous savez, c'est un vieil adage, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier dans ces voyages, les voyages qui sont obligatoires. Je pense au déplacement du travail. On peut aller très loin pour son travail. Certains qui vont jusqu'à Shanghai, jusqu'à l'Amérique, qu'on connaît bien pour leurs travaux. Mais il y a ceux qui vont journalièrement, tous les jours, de la banlieue au centre de Paris et ainsi de suite, jour après jour, dans des mouvements qu'on appelle les mouvements pendulaires. Mais aussi, surtout, il y a ces voyages qu'il ne faut pas oublier. Quand nous parlons de voyages, c'est des voyages qui sont obligatoires, qui sont dus aux guerres. Les fuites, évidemment, des malheureux sur les routes sont jetés comme cela. Les voyages qui sont dus aussi aux catastrophes, les grandes sécheresses du Sahel, par exemple, continuent aujourd'hui. On en parle beaucoup moins qu'il y a une vingtaine d'années ou 25 ans lorsqu'on en a pris conscience. Mais il ne faut pas croire que la pluie est tombée depuis, évidemment. Et malheureusement, dans ces pays-là, on cumule les catastrophes et la guerre et les régimes totalitaires. Il ne faut pas oublier ces voyages aussi qui sont là. Et pourtant, quels que soient ces voyages, que ce soit des voyages d'agrément, des voyages de travail, des voyages de curiosité, je dirais, aussi, je crois que Dieu fait de tous ces déplacements quelque chose de positif. Par exemple, ceux qui fuient la Syrie, par exemple, aujourd'hui, dans des conditions que vous savez, qui risquent leur vie, ils savent qu'ils risquent leur vie, soit parce qu'ils risquent de périr noyés ou assassinés, ou sais-je encore. Ils partent, parce qu'il y a quand même au fond d'eux-mêmes une espérance. Ils croient encore en la vie, ils pensent que la vie peut être possible ailleurs, d'une certaine manière. Et ils espèrent en cette vie. Ils pensent qu'il n'y a plus cette espérance, il n'y a plus rien à faire. C'est là qu'on voit que même dans la misère la plus grande, sans espoir, sans espérance, sans une parole, sans un geste, se manifeste d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de vie possible. Oui, le voyage, il est inscrit dans nos vies. Je crois qu'il est inscrit même dans l'humain. Le grand voyage de l'humain, c'est ce voyage qui a commencé il y a 2 ou 3 millions d'années, quelque part en Afrique de l'Est, et puis qui s'est achevé en passant par le détroit de Bering jusqu'à la Terre de Feu, en Amérique, au sud de l'Amérique latine, quand les hommes sont partis en voyage à la poursuite de troupeaux ou fuyant quelques catastrophes ou que sais-je encore, ou par simple curiosité lorsqu'ils ont quitté leur berceau d'origine pour se répandre dans le monde. Il y a quelque chose en nous qui explique peut-être tous ces mouvements, tous ces voyages, ces mouvements de foule, de population. Une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres voyages qui me semblent importants, qu'il faut mentionner. Je pense au voyage intérieur. Voyage intérieur qui permet finalement de nous découvrir nous-mêmes, de savoir qui nous sommes. voyages qui sont des voyages d'initiation. Voyage intérieur, je vous en donner un exemple que vous connaissez tous très bien. C'est l'histoire de Tintin et Milou, de Georges Rémy, signé Hergé, les initiales de son nom, et qui a cherché son identité à travers des ancêtres perdus. Et il a traduit cette recherche personnelle qu'il taraudait de manière inconsciente, il l'a traduit dans les voyages de Tintin et Milou. Voyez. Et son père perdu, c'est le chevalier de Haddock, et sa mère perdue, c'est la Castafiore. Je vous dis combien on pourrait relire, peut-être avec plus de plaisir, Tintin et Milou que l'Esdras. Vous relirez ses œuvres. Je pense que vous y penserez, parce que vous verrez que c'est assez riche, du coup, de voir ce parcours initiatique qu'il y a dans cette œuvre qui a été étudiée. Vous en avez parlé une fois ici, il y a un an ou deux, ou peut-être plus, le temps passe vite, hein, je m'en rends pas compte. Mais c'est intéressant de le voir, quoi, de le réaliser. Les voyages intérieurs. Je ne sais pas si Homère, lorsqu'il a écrit l'Odyssée, écrit pour lui ou pour le monde ou pour les autres, mais le voyage d'Ulysse est aussi un voyage d'initiation où le héros cherche sa place dans le monde, finalement comme Rémy Georges a cherché sa place dans le monde à partir de ses ancêtres. Tout le voyage autour de la Méditerranée avec des moments assez extraordinaires, Calypso, avec les sirènes, que sais-je encore, toutes ces aventures qui sont là, qui finissent par aboutir finalement à la fin du parcours, à Ithaque, la place d'Ulysse, sa place dans le monde. Cette quête, eh bien, c'est de réaliser que, eh bien, c'est à Ithaque que ça se passe avec Pénélope. Les voyages sont là, et ces voyages, ils sont intérieurs. Il faut retourner sur soi, il faut méditer, et il faut prier. La prière, je crois, est un voyage aussi important, parce que la prière nous décentre. Nous partons de nous-mêmes, évidemment, de nos pensées, de nos questionnements, mais nous sortons de nous-mêmes à ce moment-là pour poser devant Dieu ces questions qui sont là, ces joies, ces bonheurs, ces espérances que nous avons, pour élargir finalement notre pensée à d'autres dimensions qui nous dépassent infiniment parfois. Voyage intérieur, la mystique est là, la prière est là pour que précisément nous puissions vivre ce voyage qui est là. Mais tous ces voyages, qui ne s'excluent pas les uns les autres évidemment, va de soi, sont des signes de vie. Je crois que c'était vraiment un signe de vie. Savoir se décentrer, finalement, s'arracher au monde, au confort dans lequel nous sommes pour aller ailleurs, pour se lancer, c'est véritablement un signe de vie. Un signe de vie extrêmement fort, finalement. La vie que l'on reçoit ou qu'on va chercher, la vie pour laquelle on va se bagarrer, dont on va chercher le sens, d'une certaine manière, eh bien, c'est le voyage qui le donne. Le voyage qui nous arrache au monde et nous permet, finalement, la spiritualité. Car voyager, c'est refuser de rester enraciné quelque part. C'est se déraciner, donc abandonner tout ce qui est de l'ordre du matériel qui nous attache pour partir à l'aventure. L'aventure, elle commence au coin de la rue, hein, disait une œuvre dont j'oubliais l'auteur dans les années, à la fin des années 60. C'était un des best-sellers des années 60, 68, 70. L'aventure est au coin de la rue, finalement. Pas besoin d'aller très loin pour faire un voyage important. Parce qu'effectivement, au sortir de ce temple, on peut tomber sur une personne, on peut tomber sur une situation. Et donc quelque chose peut se passer en nous, quelque chose d'essentiel. Oui, le voyage fait vivre, le voyage est signe de vie, un signe de vie très très fort. Pour ça que souvent, la mort est vue comme un voyage, une allégorie, le voyage, une allégorie de la mort. Quand on est quitté ou quand on quitte quelqu'un, cet événement du décès qui est présent, on dit bah, c'est le dernier voyage. Où j'ai souvent entendu les pompes funèbres qui, avec un ton qu'on passait, disent « on va se réunir pour le dernier au revoir », vous savez. Hein, des mots que vous avez entendus, malheureusement, j'en suis sûr, parce que c'est toujours un moment difficile, évidemment, pas la peine de faire un dessin. Mais c'est vrai que la mort est précisément ce décentrement par rapport à notre vie actuelle, par rapport au réel que nous vivons pour aller vers un ailleurs qui nous échappe évidemment complètement, mais qui est un ailleurs qui est marqué par la présence ineffable du divin ou de Dieu. Le voyage, c'est aussi le voyage de Dieu. Dieu n'est pas statique. Les Hébreux l'ont bien compris. Parce que lorsqu'ils trimballaient leur Shekinah un peu partout dans le désert, leur coffre sacré, ils amenaient Dieu avec. Dieu a voyagé avec son peuple aussi. C'est pas inintéressant. Mais je crois que Dieu voyage dans le cœur des hommes. Et Dieu voyage dans le cœur des hommes parce que Dieu vient vers les hommes. Parce que Dieu lui-même n'est pas statique. Nous n'avons pas un Dieu qu'on va enfermer dans un temple. D'ailleurs, les protestants l'ont bien compris, puisqu'ils ne veulent pas représenter de Dieu dans leur temple. C'est-à-dire que nous ne le ferons pas. On veut bien la parole, on veut bien l'écriture, parce que la parole, l'écriture, ce sont des éléments qui sont mouvants, dont on peut saisir, qu'on peut interpréter. Jamais on va enfermer Dieu dans un temple, on ne va pas enfermer Dieu pour nous, tellement pour le monde. que comment pouvoir le mettre entre quatre murs, fût-ce au foyer d'âme ou ailleurs. Non, Dieu vient, Dieu bouge. Les prophètes le disent assez, finalement. Dieu est là en interlocuteur, en vis-à-vis, en face-à-face, avec les autres, comme nous sommes en vis-à-vis, en face-à-face, les uns avec les autres. C'est tellement important, le face-à-face. Tellement important, la rencontre. Des gens comme Lévinas ont écrit des pages tout à fait extraordinaires là-dessus aussi. Dieu se révèle dans la rencontre. Dieu vient vers le monde. Pas pour rien que la parabole du semeur, nous parle tellement. C'est parce qu'elle commence par le semeur est sorti pour aller vers le monde. C'est pas pour rien aussi que la parabole du fils prodigue, j'ai pris ces deux exemples, hein, parce qu'ils sont très connus, mais c'est pas pour rien que ça nous parle. Parce que le père, dès qu'il voit le fils qui revient, va vers le fils et se met à son cou. Il y a un mouvement de Dieu vers le monde et vers les hommes, dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur situation. Dans la parabole du semeur, on peut avoir une interprétation générale. Dans la parabole du fils prodigue, c'est une situation particulière. Mais dans les deux cas, Dieu va vers le monde. Dieu bouge, Dieu est du voyage, Dieu est de la vie, précisément, parce que la vie est mouvement, la vie est évolution, la vie est voyage aussi. Je crois que ce voyage, s'il est si présent dans l'Écriture, depuis Adam et Ève qui vont partir de l'Éden dans des conditions un petit peu difficiles, ou d'Abraham, jusqu'à Paul et aux apôtres, si le voyage est de l'Écriture, toutes les pages, si j'ai pu dire, c'est parce que le voyage nous parle du royaume, nous dit le royaume. Quoique le royaume, comme le disait Gounel, à la fin des temps, ce sera un petit peu long, l'éternité. Dire, si on doit chanter les louanges des anges pendant l'éternité, franchement, c'est pas très attirant. Entre nous, j'aime bien chanter, et puis moi qui chante pas très juste, en plus, c'est une catastrophe. Si on voit le royaume comme un mouvement, comme du voyage, comme des choses qui changent, comme des rencontres, comme de la vie, alors là, c'est tout différent. Là, c'est tout différent. On n'est plus dans une sorte de béatitude. On est dans quelque chose qui se passe, l'existence, qui commence là, maintenant, dans ces paroles qu'on est en train d'échanger, dans cette fin de culte que vous allez vivre, dans la sortie, dans ce dimanche, dans cette année qui arrive là, qui est par devant nous. Le royaume, il est là, dans nos vies, dans nos cœurs, et il est signifié, véritablement, par cette vie, par ce mouvement. Alors, ils sont repartis par un autre chemin. En discutant avec l'un d'entre vous, là, en arrivant, on parlait de ce texte, je disais, moi, pour moi, ils sont partis, ils ont pris la même route. Ça, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas vu la même chose. Ils avaient le même paysage sous les yeux, mais ils n'ont pas vu de la même manière. C'est là où est toute la différence. C'est là où le chemin est vraiment différent, véritablement. Ils sont partis par un autre chemin, oui. C'est vraiment un autre chemin. Pourtant, le décor était le même. Voyez. Mais eux, ils l'ont vu d'une autre manière. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est le signe de la grâce. Ils sont arrivés, ils ont vu un enfant pour lequel ils n'avaient rien fait, finalement, pour lequel ils ont vécu un énorme contresens. Ils sont arrivés avec des cadeaux extraordinaires dont les parents n'avaient rien à faire. Je veux dire, parce que c'est pas de l'or qui va nourrir l'enfant, qui va le nettoyer, qui va le langer, etc., qui va lui apporter de la chaleur, jusqu'à preuve du contraire, pas plus que de l'encens ou de la myrrhe. Vraiment d'un contresens total. Et pourtant, en plus, ils sont arrivés en retard. Hein, donc, ils auraient pu arriver à l'heure, en plus. Hein. Mais ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, là, à ce moment-là. C'est ce que dit l'Écriture. L'Écriture va nous témoigner de ça. Il dit, ils repartent. Ils sont venus, ils repartent. Ils sont venus dans une certaine condition, et ils repartent dans une autre condition. Le voyage les a transformés. Il s'est passé quelque chose. Ils sont les mêmes, c'est le même décor. Mais tout a changé, véritablement tout a changé. C'est ça le voyage. Pour Abraham, tout a changé. Quand il quitte Ur en Chaldée et qu'il va sur la Palestine, le pays de Canaan, tout a changé aussi. Parce qu'un homme qui était statique là va vivre la grande aventure. Va vivre la grande aventure. Et cette aventure, c'est une promesse. Une promesse qui le dépasse infiniment. Les nations de la terre vont se réclamer de toi. Je veux dire, tu vas avoir une descendance qui va récupérer ce pays. Et il y va. Et ainsi de suite. Je veux dire, les prophètes se sont lancés. Jésus-Christ s'est baladé sur des routes comme cela pour annoncer ça, dire vivez, allez-y, n'ayez pas peur, foncez. La vie, c'est un arrachement. Il faut toujours s'arracher au passé pour aller vers l'avenir. C'est pour ça aussi que je voulais vous parler de ces voyages, parce que je me dis que les voyages sont liés au temps. Mais je m'arrêterai là pour cette question du temps. Peut-être que j'y reviendrai une autre fois. Mais je pense que les voyages sont liés au temps aussi. Le temps où nous quittons et le temps où nous arrivons, où nous revenons. Je pense que nous avons quitté un temps difficile pour nous. Nous n'étions pas préparés à la violence par laquelle la France a été, dont la France a été victime. Ça, je crois que c'est tout à fait assez clair. C'est vrai qu'il y a la violence de l'économie, du chômage, des inégalités sociales, des exclusions, que sais-je encore. Il faut s'arracher à ce temps pour essayer d'aller vers un autre temps baigné par la lumière de l'espérance et de l'amour, pour que nous puissions puiser dans cette espérance et dans cet amour la force d'agir, d'agir selon la volonté de Dieu, d'agir dans la justice de Dieu, telle qu'elle nous a été présentée dans le psaume 85 que nous avons lu au début de ce culte. Amen.